Bonjour à chacun. Voilà, dans notre série sur le prophète Élie, nous avons vu la dernière fois que Dieu a envoyé Élie se cacher au torrent de Kérit après qu'il ait annoncé au roi Akab une sécheresse qui allait durer plusieurs années. Une sécheresse comme un jugement de Dieu sur l'idolâtrie du peuple, du royaume et du roi, bien évidemment. Une sécheresse aussi comme un appel à la repentance. Et une sécheresse comme un défi lancé au dieu Baal, supposé être le dieu de la pluie et de la fertilité. Élie se rend donc au torrent de Kérit, où Dieu pourvoit miraculeusement à ses besoins, jusqu'au jour où le torrent finit par s'assécher. Que va-t-il se passer maintenant? L'assèchement du torrent indique-t-il la fin de cette période annoncée par Élie? Élie doit-il maintenant prier pour que la pluie revienne? Est-il temps de retourner voir Akab? En réalité, le temps de la sécheresse n'est pas encore terminé, ni le temps de l'apprentissage pour Élie. Et nous allons voir ce matin que Dieu va l'envoyer dans une ville qui s'appelle Sarepta. Et je vous invite à suivre la lecture du passage de ce matin qui se trouve dans le premier livre des Rois au chapitre 17, les versets 8 à 16. Alors, il y a un petit problème technique, je pense que ça va arriver dans quelques instants. Je vais commencer la lecture et puis en espérant que ça viendra. À partir du verset 8. Donc. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, reste-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Merci. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient, afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Sois sans crainte. « Rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. » Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Alors qu'il n'y a plus d'eau dans le torrent de Kérit, Dieu parle à son prophète et il l'envoie à Sarepta, qui appartient à Sidon, dit le texte. C'est un nouveau départ pour Élie. Et c'est notre premier point. Sarepta était une ville phénicienne sur la côte méditerranéenne, à 15 km au sud de Sidon, en direction de Tyr. Et on peut voir ça sur la carte. Qui va s'afficher. Vous voyez le royaume du nord, le royaume du sud, le pays de Galaad où se trouve Élie, c'est quelque part ici, et puis Tyr et Sidon avec Sarepta quelque part au milieu. Ça veut dire que Sarepta était en dehors des limites géographiques du royaume d'Israël. Notons que cette ville existe encore aujourd'hui sous le nom de Sarafande et qu'elle se trouve au Liban. Trois remarques, rapidement. Premièrement, nous venons de le dire, Élie est envoyé en dehors des limites d'Israël, c'est-à-dire en terre païenne. Jésus va citer cet exemple dans Luc 4 comme une illustration du fait qu'aucun prophète, ou de la réalité, qu'aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Deuxièmement, Sarepta se trouve être dans le pays d'où est issue la reine Jézabel et le culte de Baal qui est répandu à ce moment-là en Israël. Et vous conviendrez avec moi certainement que c'est à minima un endroit surprenant pour envoyer Élie se cacher. Justement, pourquoi envoyer Élie là-bas ? Le texte ne le dit pas, mais on pourrait imaginer, par exemple, qu'Akab et Jézabel, qui cherchaient frénétiquement Élie partout, même en dehors des limites du royaume, n'allaient pas penser à aller le chercher à cet endroit-là. En effet, qui aurait l'idée pour se cacher de se jeter dans la gueule du loup ? Troisième remarque. Sarepta est loin du torrent de Kérit, loin du pays de Galaad où se trouve Élie. On voit bien la distance qu'il va falloir parcourir. On ne sait pas exactement à quel endroit du pays de Galaad se situe le torrent de Kérit, mais on peut dire qu'il y a au minimum 150 km entre le point le plus proche du pays de Galaad et la ville de Sarepta. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'Élie va devoir s'exposer pendant de longs jours pour arriver jusqu'à Sarepta. Il va devoir se découvrir, il va devoir se mettre en danger pour parvenir jusqu'à Sarepta. Et puis, il va devoir voyager dans des conditions difficiles, sans eau. En tout cas, il ne pourra pas en emporter avec lui depuis le torrent de Kérit. Il faudra en trouver en chemin. À ce stade de la sécheresse, l'eau est véritablement devenue une denrée rare. Ce voyage est donc pour Élie, on pourrait dire, le voyage de tous les dangers et certainement aussi le voyage de la soif, d'une grande soif. Quoi qu'il en soit, Élie va obéir à la parole que Dieu lui adresse et il va se rendre à Sarepta, où, lisons-nous au verset 9, Dieu a ordonné à une veuve de le nourrir. À vrai dire, je ne sais pas si cette perspective, si Élie en est informé, je ne sais pas si cette perspective est très, très rassurante pour Élie. Pourquoi ? Parce que à l'époque, les veuves et les orphelins faisaient partie des catégories ou de la catégorie la plus pauvre, qui souvent ne survivait que grâce aux aumônes qui étaient faites et qui, en temps de famine, devaient être bien maigres. À l'évidence, Dieu n'envoyait pas Élie au club Med de Phénicie. C'est une évidence. Mais Élie a reçu une promesse. La promesse que Dieu va continuer à prendre soin de lui. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Voilà la parole qui va envoyer Élie. Et même si à vue humaine, tout cela semble bien fragile, Élie, en s'appuyant sur cette promesse de Dieu, se met en marche en direction de Sarepta. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Après un voyage certainement long et éprouvant, dont le texte biblique ne dit rien, Élie arrive à Sarepta. C'est notre deuxième point. Et tout commence bien pour le prophète quand il arrive, puisqu'il rencontre dès l'entrée de la ville une veuve qui ramasse du bois et qui doit certainement être la veuve dont Dieu lui a parlé. Tout se passe comme Dieu l'avait annoncé. Et pour Élie, qui à l'évidence doit être très assoiffé, la priorité c'est de boire. Et c'est pourquoi la première chose qu'il demande à cette femme, c'est de l'eau. De l'eau que la veuve s'empresse d'aller lui chercher. L'hospitalité du Moyen-Orient n'est pas une légende. Élie avait soif, mais il a aussi faim. Peut-être n'a-t-il rien mangé depuis des jours et des jours. Peut-être n'a-t-il rien mangé depuis le dernier largage par les corbeaux au torrent de Kérit. C'est pourquoi, à peine la veuve est-elle revenue avec de l'eau, qu'il lui demande à manger. Cette demande peut se comprendre comme la demande d'un voyageur affamé qui compte sur le devoir d'hospitalité pour être nourri. C'est sans doute un peu de cela. Mais on peut aussi comprendre ici, en plus de cela, qu'Élie cherche à déterminer si cette veuve est bien celle dont le Seigneur a parlé. Si c'est elle, elle s'empressera de le nourrir. Élie est certainement confiant, puisque Dieu lui a dit qu'il avait ordonné à une veuve de le nourrir. Mais la réponse de la veuve a dû le désarçonner, a dû le laisser perplexe, au moins sur le coup. En effet, notre veuve se trouve être dans une grande situation de précarité, ou dans une situation de grande précarité. En fait, elle est même au bout du rouleau, au bout de sa vie. Et ça, ce n'est pas juste une expression comme on entend aujourd'hui, c'est vraiment au bout de sa vie qu'elle se trouve. La famine a aussi sévi à Sarepta. Elle n'a plus rien. Elle est tellement au fond du trou qu'elle envisage maintenant de faire un dernier repas avec le peu qui lui reste pour elle et pour son fils et de mourir ensuite. Je relis le verset 12. Elle répondit : « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. » Et un peu d'huile dans une cruche, me voici en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Cette veuve est littéralement au bout du rouleau, dans le désespoir le plus complet. Et voilà que cet homme vient lui demander le peu qui lui reste. Notons maintenant l'affirmation de foi qui est faite par notre veuve au verset 12. « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, dit-elle. » Comment comprendre ces paroles dans la bouche de cette païenne, de cette phénicienne? Est-ce que ce seraient des paroles qui disent sa perplexité? En effet, le Dieu de cet homme, s'il est effectivement vivant, ne sait-il pas qu'elle n'a plus rien pour nourrir Élie? Ou alors, est-ce que ce sont des paroles qui disent la confiance existante dans la vie, dans le cœur de cette femme? Une confiance existante dans le Dieu de ce prophète, dans l'Éternel? Est-elle déjà dans la foi au Dieu d'Israël? Il me semble qu'il est tout à fait envisageable de le penser, de le déduire même si le texte ne dit rien sur l'origine de la foi, de cette foi-là. Nous pouvons noter que les paroles de Jésus dans Luc 4 vont aussi dans le sens d'une véritable foi. Notons ensuite qu'il est difficile de savoir ce que cette femme savait ou pas de l'intention de Dieu qu'elle nourrisse Élie. Dieu avait dit à Élie : « J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Mais force est de constater que cette veuve ne semble pas être au courant. Cette veuve ne semble même pas avoir les moyens d'accomplir cette mission divine. Ce qu'il faut sans doute comprendre ici, c'est que Dieu n'a pas parlé directement à cette veuve. « J'ai ordonné à une veuve de te nourrir » ne signifie pas que Dieu lui a parlé, mais signifie sans doute que Dieu a décrété de pourvoir aux besoins d'Élie au travers de cette veuve. Seulement, elle ne le sait pas encore. Et nous remarquons d'ailleurs dans sa réponse qu'elle ne parle même pas de nourrir Élie, elle parle de se nourrir elle et de nourrir son fils. C'est tout. Considérons maintenant ce que Élie lui dit ensuite. Et je relis les versets 13 et 14. Élie lui dit : « Sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. « Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. » Que fait Élie ici ? Il invite cette veuve à la confiance en l'Éternel. L'Éternel qu'elle a affirmé être vivant. Et Élie l'invite à croire que l'Éternel va miraculeusement pourvoir à ses besoins. Mais avant la promesse du verset 14, que la farine et l'huile ne s'épuiseront pas jusqu'à ce que la pluie revienne, Élie demande à cette veuve de le nourrir avec le peu qui lui reste. Voilà une demande qui peut paraître bien égoïste. Comment Élie ose-t-il demander à cette femme qui n'a presque plus rien de lui donner ses dernières ressources ? Il faut bien le reconnaître, ce que Élie demande à notre veuve est tout sauf évident. Il lui demande, pour ainsi dire, l'impossible. C'est pour ainsi dire, à vues humaines, la signature de son arrêt de mort que de lui donner le peu qui lui reste pour le nourrir. Mais en fait, c'est sur le terrain de la foi que le prophète veut emmener notre veuve. Ce qu'il lui demande, c'est un acte de foi. C'est de croire que la parole de l'Éternel qu'il lui annonce va s'accomplir. Et que par ce miracle, que par miracle, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas. Il fallait beaucoup de foi à cette païenne pour croire cela. Beaucoup de foi. Et c'est pourtant ce qu'elle va faire. Nous lisons au verset 15 et 16, « Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. » C'est parce qu'elle a mis sa confiance dans la parole de Dieu que cette femme et son fils vont être sauvés. Et nous avons ici une très belle analogie du salut que Dieu nous offre en Jésus. En effet, c'est parce que nous mettons notre confiance en ce que Dieu nous dit du salut qu'il a préparé en Jésus-Christ, que nous aussi nous sommes sauvés. Le salut, ce n'est pas croire en Dieu. Le salut, c'est croire Dieu, c'est croire ce qu'il dit. L'acte de foi de la veuve va amener une situation tout à fait paradoxale que j'ai trouvée bien résumée dans une note de la Bible du Semeur et qui dit ceci. Alors qu'Israël, en se confiant en Baal, connaît la faim et la soif, cette femme païenne, en se confiant en l'Éternel, expérimente la providence de l'Éternel. Pour terminer ce deuxième point, j'aimerais dire un mot sur le d'abord du verset 13. Élie lui dit, « Sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord. » D'abord, avec cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Par cet adverbe, d'abord, Élie invite notre veuve à mettre en premier la foi en l'Éternel. Nous l'avons déjà dit, c'était tout sauf évident ce qu'il lui demandait. C'est un véritable acte de foi. Mais j'aimerais dire ici, et le rappeler, c'est que cette primauté demandée ici, accordée à la confiance à l'Éternel, à l'obéissance à Dieu, est aussi quelque chose de fondamental pour chacun de nous. Il y aurait bien des choses à dire ici, mais j'ai pensé ici en particulier à ce passage dans Matthieu 6, verset 33, où Jésus parle des besoins basiques de notre vie, le manger, le boire, le vêtement, pour lesquels nous pouvons nous inquiéter, mais pour lesquels nous sommes aussi appelés à mettre Dieu en premier. Vous le connaissez, on le chante parfois. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela, le manger, le boire, le vêtement, vous sera donné par-dessus, dit Jésus. Mettre Dieu en premier est nécessaire au moment du salut, mais c'est aussi nécessaire tout au long de la vie chrétienne. Et tout au long de la vie chrétienne, nous devons régulièrement faire le choix de nos priorités. Nos priorités qui devraient faire la part belle à Dieu si nous sommes son enfant. Dieu qui s'engage alors à prendre soin de nous. Ceci dit, attention ici à ne pas surinterpréter notre texte. Mettre Dieu en premier est une nécessité de la foi. Mais ce n'est jamais la garantie infaillible que plus rien de difficile ne nous arrivera. Ce qui se passe dans le texte des rois est un miracle. C'est un miracle incroyable. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu intervient à chaque fois. Oui, parfois Dieu délivre ses enfants d'une manière incroyable. Et nous avons peut-être les uns et les autres des exemples en tête. Il les sauve, il les guérit, c'est une réalité. Mais parfois aussi, Dieu permet l'épreuve qui dure, l'épreuve qui ne finit pas. Et il permet même au bout de l'épreuve, parfois la mort. De toute façon, elle est au bout de chacun de nos chemins. Toutes les situations difficiles de nos vies n'ont pas de solution miracle, n'ont pas de résolution heureuse. Mais dans toutes les situations difficiles, dans nos épreuves, dans nos tentations, Dieu promet sa présence. Il promet que tout cela ne sera jamais au-delà de nos forces. Et il promet de nous aider à le supporter. Vous pensez comme moi à ce texte de 1 Corinthiens 10, où Paul dit, alors le mot en grec pour tentation et épreuve, c'est le même, c'est pour ça que j'ai mis épreuve entre parenthèses, parce qu'on peut traduire des deux manières. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Non, Dieu ne supprime pas toujours les difficultés de notre chemin. Mais par contre, il promet d'être toujours là. Il nous promet sa présence, son secours, sa consolation, sa paix, son action pour notre salut éternel. Car il fait toujours concourir toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et j'aimerais juste préciser ici que le bien dont parle ce verset de Romains 8, 28, c'est notre bien éternel, c'est notre salut éternel et non pas notre confort ici-bas. J'aimerais maintenant terminer, lier la gerbe, après avoir fait toutes ces remarques sur le texte, j'aimerais dire quelques leçons sur la marche par la foi dans un troisième et dernier point. Et la première leçon que je voudrais dire, c'est qu'avancer par la foi, ce n'est pas tout savoir ou tout comprendre à l'avance. Avancer par la foi, ce n'est pas tout savoir ou tout comprendre à l'avance. Qu'est-ce qu'Élie a bien pu comprendre de cet ordre que Dieu lui a donné d'aller à Sarepta? Sarepta, si loin. Sarepta en terre païenne, en dehors des limites d'Israël. Sarepta, fief de Jézabel, son ennemi. Sarepta, fief du dieu Baal que Jézabel a apporté dans le royaume d'Israël. Sarepta, avec cette veuve, symbole de précarité. Qu'est-ce qu'Élie a bien pu comprendre de cet ordre de se rendre à Sarepta? Et puis Dieu envoie Élie sans lui donner de programme, apparemment. En tout cas, le texte ne dit rien. C'était déjà le cas au moment où il l'a envoyé au torrent de Kérit. Élie n'a certainement pas compris grand-chose, mais il a obéi. Et il en va de même pour nous et pour notre foi. Nous aimerions parfois tout savoir et tout comprendre à l'avance. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Et d'ailleurs, je pense que nous serions souvent bien malheureux de savoir à l'avance ce qui pourrait se passer. Avancer par la foi, c'est avancer vers un but sans forcément connaître toutes les étapes pour y parvenir. Il y a des choses que Dieu nous révèle, de choses qu'il juge bon de nous dire, et puis il y a les autres, tout ce qu'il ne dit pas. Mais ce qui compte pour nous qui avançons par la foi, ce n'est pas de tout savoir, mais d'avancer comme Élie en nous appuyant sur la parole de Dieu, sur ses promesses. Et c'est notre deuxième leçon. Avancer par la foi, c'est s'appuyer sur les promesses de Dieu. Pourquoi est-ce que nous pouvons avancer sans tout savoir, sans tout comprendre? Et il y en a des choses que nous ne comprenons pas et que nous ne savons pas. Nous pouvons le faire parce que nous avons la parole de Dieu, parce que nous avons les promesses de Dieu. Avancer par la foi, ce n'est pas avoir toutes les réponses à nos questions ou à nos doutes, mais c'est faire confiance à Dieu malgré nos questions, malgré nos doutes. C'est faire confiance à sa parole qui nous met en marche, qui éclaire notre sentier, qui nous donne un cap, qui nourrit notre foi et qui nourrit notre espérance. Oui, la marche par la foi, c'est la marche de la confiance en Dieu, en sa parole. Dieu qui, lui, connaît toutes choses. Lui, il connaît toutes choses. Lui, il connaît toutes les étapes du chemin. Et lui prépare toutes choses pour notre chemin, à l'instar de cette veuve qu'il a préparée pour nourrir Élie. Oui, Dieu est celui qui sait toutes choses. Il est bon de nous en souvenir. Comme David le dit au psaume 139, il est celui qui sait quand je m'assieds et quand je me lève. Celui qui sait quand je marche et quand je me couche. Celui qui sait même la parole qui n'est pas encore sur ma bouche. Celui qui met sa main sur moi pour que je puisse avancer avec confiance, même sans tout savoir et sans tout comprendre, mais en m'appuyant sur sa parole et sur ses promesses, en m'appuyant sur celui qui, lui, sait tout. Troisième leçon que je voudrais faire ressortir de notre texte, c'est l'avant-dernière, j'ai bientôt terminé. C'est qu'avancer par la foi, ce n'est pas une promenade, c'est plutôt une course d'obstacles. Et je dis cela parce qu'il existe dans le monde chrétien, au sens très large et à l'échelle de la planète, une idée très répandue, malheureusement très répandue, qui dit que si je suis dans la foi, alors tout ira bien. Il y a même un chant qui l'évoque chez nous. Alors je serai toujours en bonne santé. Alors je n'aurai jamais de problème financier. Alors tout ira toujours pour le mieux, pour moi, dans le meilleur des mondes. Vous l'avez déjà entendu, ça ? J'aimerais vous dire, chers amis, que cette idée n'a aucun fondement biblique solide. On peut trouver quelques versets qui en... Les sortant du contexte, on arrivera peut-être à faire dire des choses comme ça, mais il n'y a rien de solide dans l'Écriture pour étayer cela. L'Écriture du début à la fin montre l'exigence de la marche par la foi, les difficultés de la marche par la foi. On en aurait pour des heures si on voulait passer en revue tous les exemples. J'ai pensé ici à cette parole de Jésus à ses disciples, qui leur dit, avant de les quitter, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Et vous noterez ici qu'il n'est pas question de supprimer les tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais d'offrir une espérance, d'offrir un cap vers lequel avancer, parce que Jésus a vaincu le monde. Voilà notre espérance. Et parce qu'il prépare pour les siens, dit Pierre dans son épître, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, où il essuiera toutes nos larmes. C'est difficile maintenant, mais nous avons l'espérance d'un monde meilleur, où la mort ne sera plus, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses auront disparu. Cette vie merveilleuse, nous la possédons déjà, mais nous la possédons en espérance pour l'instant. Et pour l'heure, avancer par la foi, c'est souvent une course d'obstacles. Des obstacles que Dieu permet, et des obstacles parfois vers lesquels Dieu nous envoie pour des raisons qu'il connaît, comme nous le voyons dans ce texte d'Élie. Mais des obstacles qu'il nous aide toujours à franchir. Dernière leçon que je tire de notre texte ce matin, c'est qu'avancer par la foi, c'est avancer avec le Dieu de l'impossible. Nous avons dit que Dieu n'intervient pas toujours miraculeusement pour délivrer ses enfants. Il y a des épreuves qui durent toute une vie, toute une vie. Il y a des maladies dont on ne guérit pas. Et il y a toujours la mort au bout du chemin. Et parfois, celle-ci est bien prématurée. Oui, ces choses sont une réalité. Mais il est vrai aussi que parfois, même aujourd'hui, Dieu délivre miraculeusement ses enfants. Et nous ne devons pas l'oublier. Nous n'avons bien évidemment rien à exiger de Dieu. Mais il nous invite à lui faire connaître tous nos besoins en comptant sur sa grâce. Soit sa grâce qui nous délivrera, soit sa grâce qui nous aidera à vivre l'épreuve qu'il permet. Sa grâce qui parfois nous sauve, nous délivre avec puissance. Sa grâce qui parfois simplement nous accompagne. Avancer par la foi, c'est aussi avancer dans la compréhension que celui qui est à nos côtés est le Dieu de l'impossible. Puisse le Seigneur fortifier notre foi pour que nous n'en doutions jamais, pour que nous nous attendions toujours à Dieu, parce que son bras n'est jamais trop court pour nous secourir, pour que nous sachions toujours accepter sa volonté, qui est toujours bonne, agréable et parfaite, et pour que nous n'oublions jamais de remercier celui qui peut tout et dont le plus grand miracle, certainement en ce qui nous concerne, si nous sommes enfants de Dieu, c'est d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. C'est ça le plus grand miracle. Nous étions errants comme des brebis, nous ne cherchions pas Dieu, et Dieu, dans sa grâce, nous a fait comprendre son amour. Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière, il nous a fait passer de la mort spirituelle dans laquelle nous étions à la vie éternelle qu'il nous offre en Jésus-Christ. Ça, me semble-t-il, c'est le plus grand de tous les miracles, et que Dieu en soit éternellement béni. Élie n'en a pas fini à Sarepta. C'est pour ça qu'il y avait marqué partie 1. La prochaine fois, nous verrons comment il va être un instrument dans la main de Dieu pour un miracle encore jamais vu jusqu'à ce jour. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Amen.